Les séminaires du Collège de France.
Nous continuons avec le séminaire et nous allons revenir à la littérature, au texte, au récit, puisque nous recevons, j'ai le plaisir de recevoir l'un des grands narratologues contemporains, Raphaël Baroni, narratologue, c'est-à-dire la spécialiste de narratologie, la science, l'étude même des récits, qui a été pas tout à fait initié, parce qu'il avait un peu d'autres avant lui. Gérard Genette, par exemple, était l'un des très grands représentants. Raphaël Baroni est professeur à l'université de Lausanne, et c'est vraiment quelqu'un d'absolument incontournable dans toute la théorie contemporaine du récit. Mais il ne fait pas que cela. Il regarde le récit pas seulement dans la littérature, pas seulement dans les textes. Il la regarde dans la bande dessinée, dans les images, il s'intéresse aussi à la transition numérique de la culture. Et puis il s'intéresse aussi beaucoup, il fait beaucoup de didactique de la littérature et du français. Il est l'auteur de très très nombreux ouvrages. Des ouvrages importants qui font date dans la discipline, en particulier de la narratologie. Les deux premiers sont vraiment sont importants parce qu'ils sont aussi parus au seuil dans la prestigieuse collection poétique. Il s'agit d'abord de La tension narrative, suspense, curiosité et surprise en 2007, suivi en 2009 de L'œuvre du temps, poétique de la discordance narrative, donc deux ouvrages importants. Et puis la réflexion a continué plus récemment. Je laisse de côté les ouvrages dirigés, ainsi qu'une fiction aussi, un ouvrage de nouvelles, Les villes englouties, paru en 2011. Mais les ouvrages les plus récents de Raphaël Baroni sont Les rouages de l'intrigue. Nous restons dans la question même de la construction d'un récit. Et puis, peut-être quelque chose qui va inspirer le propos d'aujourd'hui, Lire Houellebecq, essai de critique polyphonique. Ces deux derniers ouvrages, Lire Houellebecq et Les rouages de l'intrigue, sont parus chez Slatkin à Genève. Eh bien justement, le propos d'aujourd'hui n'a pas changé, le titre n'a pas changé, Valeur littéraire et polyphonie, quand les textes se remettent à parler. Donc je crois qu'on va continuer peut-être dans peut-être pas les possibles d'interprétation, mais la polyphonie d'interprétation. La parole est à toi, Raphaël.
Merci, William. Merci de m'avoir invité dans ce lieu prestigieux. Merci aux gens qui sont restés après cette conférence passionnante qui m'a beaucoup intéressé, qui n'est pas complètement sans rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui. Mais je tiens à préciser d'emblée, parce que là, on a eu des très beaux objets sous les yeux et on a fait ce qu'on appelle aussi du close reading. On a regardé de très près ces objets pour leur donner une épaisseur interprétative. Ici, je vais parler d'objets un peu moins, qui font un peu moins consensus en termes de qualité esthétique, on va dire. Mais en même temps, on va s'intéresser à des phénomènes qui sont pas complètement étrangers à ce dont tu parlais, dans la mesure où il s'agira aussi de réfléchir au fait que des gens différents peuvent interpréter différemment une même œuvre, lui donner un sens différent, des valeurs différentes. Et la raison pour laquelle je vais travailler sur ces objets, j'ai même un peu honte de présenter ça dans le Collège de France, vous aurez même droit à un petit extrait de la série Friends. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, peut-être que ce n'est pas votre tasse de thé, mais c'est aussi un objet assez intéressant, vous verrez. C'est moins l'objet qui m'intéresse ici, et ça c'est peut-être une posture typiquement narratologique, que le processus d'interprétation lui-même. Et c'est davantage en fait l'interprétation des œuvres, la lecture des œuvres qui m'a intéressé, qui sera l'objet de cette conférence, qui sera un peu plus théorique et beaucoup moins empirique, mais avec une certaine empirie qui portera plutôt sur les objets. William a beaucoup exagéré en disant que j'avais écrit un nombre innombrable d'ouvrages. En fait, il y en a 4 pour le moment, ce qui n'est pas énorme compte tenu de mon âge. Heureusement, j'ai un congé scientifique qui va commencer cet automne. J'ai bien l'intention de doubler au moins ma production dans les mois qui viennent. Néanmoins, je vous remercie aussi de donner l'occasion de parler du dernier ouvrage qui, en fait, est pour des raisons qui sont elles-mêmes peut-être intéressantes, La moins intéressante étant que peut-être que l'ouvrage n'était pas très bon, mais peut-être qu'en fait il était bon, mais qu'il y a aussi des choses qui parasitent la lecture de cet ouvrage. Il est un peu passé sous le radar et j'avais envie de, puisque l'occasion m'était donnée de venir parler devant le Collège de France et devant un large public, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de public quand on travaille dans ce domaine. De défendre cet ouvrage et de parler un petit peu de ces livres que j'avoue avoir écrit aussi pour m'en débarrasser, parce qu'à un certain moment, parler de Houellebecq m'a fatigué un peu. Et puis, il s'est trouvé que c'était pas forcément le genre de problématique qui était au cœur de mes travaux. Comme l'a expliqué William, je m'intéresse beaucoup à la question des médias, à la question des récits, de la fiction, de l'intrigue et beaucoup d'autres sujets de ce type-là. Aujourd'hui, je m'intéresse aussi énormément à la scolarisation de la narratologie, parce que si la narratologie a encore une place dans la société, une fonction sociale, disons, c'est parce que vous la croisez au collège et au lycée et qu'on s'est un petit peu préoccupé du fait que cette narratologie enseignée est toujours exactement la même que celle qui existait il y a 50 ans, alors qu'il y a des gens qui travaillent sur cette discipline et qui se posent la question un petit peu comment est-ce qu'on peut changer les choses. Donc là, c'est un sujet un petit peu à part, mais qui peut aussi avoir des conséquences sur les questions d'éducation. Cette question de la polyphonie, en fait, m'a intéressé un peu en marge, mais ça a donné lieu quand même à un cycle d'articles que j'ai produit pendant une dizaine d'années, avec ce retour sous des angles différents, disons, d'une même question qui me semblait assez fascinante. Pourquoi le fait d'attribuer une voix aux énoncés qu'on lit dans un texte littéraire, dans une fiction, disons, dans un récit de fiction, détermine la valeur que l'on donne à cette fiction. Et en parlant de valeur, je ne parle pas seulement de valeur esthétique, mais en partie, bien sûr, la question de la valeur esthétique va en dépendre, mais aussi de valeur éthique, voire même d'une valeur, pour utiliser un terme un peu pompeux, mais enfin, halétique, quelque chose qui est de l'halétéia, hein, c'est la vérité, quelque chose qui fait que parfois, ben, on lit des énoncés dans des textes de fiction qui nous semblent être valables, comme des textes qui nous disent quelque chose de la vraie vie, du vrai monde. Et pour parler de ces choses-là, étonnamment, il fallait briser un mur qui avait été assez fermement établi, notamment par l'école, notamment par vos études au lycée, etc. Cette distinction, cette doxa, on va dire, cette opinion bien arrêtée qui fait qu'il faudrait toujours clairement distinguer la voix du narrateur de celle de l'auteur, et que, au fond, ce que voulait dire l'auteur n'a pas tellement d'importance. Ça, c'est une doxa qui a été héritée d'un moment de la Nouvelle Critique, notamment dans l'article que je vais commenter, et qui me semblait extrêmement étrange. Moi, je fais souvent un peu l'imbécile en théorie littéraire. On se dit, mais enfin, c'est pas du tout évident. Il y a des fois où on lit un texte, un passage de Balzac, et on se dit, ah tiens, Balzac me parle ici. Il me semble que c'est un acte de lecture assez ordinaire. Et en fait, autour de cette énigme, il me semblait qu'il y avait quelque chose à reconstruire, disons une critique que j'ai appelée critique polyphonique. Ici, je vous propose, en haut, vous avez un titre qui est différent que le titre de l'ouvrage, parce que je me dis, avec le recul, que si je l'avais intitulé cet ouvrage « Critique polyphonique, 2. Le cas Houellebecq », les gens auraient compris que l'objet de cet ouvrage n'était pas de parler tellement de Houellebecq, mais de partir du cas Houellebecq pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les récits de fiction et la manière dont nous leur conférons une valeur quand on les lit. Ok. Donc, d'où vient cette étrange idée que quand on lit un récit de fiction, ou quand on regarde un film, ou quand on regarde même une série télévisée, ou on va au théâtre, comment se fait-il qu'on n'ait pas le droit de dire que ici, l'auteur nous parle? Je reviens sur un texte extrêmement célèbre de Roland Barthes, paru de manière pas du tout anecdotique en 1968 à l'origine, ce fameux article qui s'appelle « La mort de l'auteur », aussi un fameux représentant du Collège de France, Roland Barthes. Et on trouve dans cet article, et très souvent, moi, avec Barthes, je suis toujours un peu dans une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire que j'adore Barthes, je trouve que la plupart des choses qu'il dit sont vraies, mais quand il tire le fil de sa réflexion, à la fin, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors ici, il dit dans ce passage-là, il dit dans sa nouvelle Sarrazine, donc vous savez que Sarrazine, c'est un ouvrage qui, un roman qui, enfin, une nouvelle qui a beaucoup intéressé Roland Barthes. Il en a même fait un livre entier, hein, une interprétation de Sarrazine, un peu comme aujourd'hui, on a eu l'interprétation d'une peinture en essayant de voir toutes ses dimensions. Dans cet article, il dit dans sa nouvelle Sarrazine, Balzac, donc on parle bien de Balzac ici, hein, parlant d'un castrat déguisé en femme, écrit cette phrase. C'était la femme, avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiment. Qui parle ainsi? Est-ce le héros de la nouvelle, intéressé à ignorer le castrat qui se cache sous la femme? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'intrigue de Sarrazine, mais enfin, vous pouvez imaginer un petit peu. Il y aura une idée ici, disons, structurale, si vous voulez. Est-ce l'individu Balzac pourvu par son expérience personnelle d'une philosophie de la femme? Est-ce l'auteur Balzac? Tiens, il y a une différence entre individu et auteur. Pour moi, vous avez une idée de d'où vient cette différence. Professons des idées littéraires sur la féminité. Est-ce la sagesse universelle? La psychologie romantique? Jusque-là, je trouve ça passionnant. Et tout à coup, il conclut ainsi, il sera à tout jamais impossible de le savoir, pour la bonne raison que l'écriture est destruction de toute voie, de toute origine. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que jusque-là, ok, peut-être qu'il sera impossible de savoir qui parle ici, parce que c'est ambigu, on est dans la diversité des interprétations possibles, comme tout à l'heure, mais de dire que pour la raison qu'on n'arrive pas à trancher la question, on doit en conclure que la littérature serait destruction de toute voie, ce qui aboutit évidemment à la mort de l'auteur, qui est le sujet de l'article, il me semble qu'il y a là un pas franchi qui est vraiment problématique. Si je reprends la phrase, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ce n'est pas une phrase prise au hasard dans la nouvelle de Sarrazine. La forme de cette phrase a une forme bien particulière. Vous voyez qu'ici, on a « c'était la femme », ce n'était pas une femme. D'accord, c'était la femme. On parle de la féminité, et donc d'un objet, pas du tout un objet, pardon, d'une entité, si vous voulez, qui a une valeur générale. Le ici, hein, est en article à valeur générique. Vous êtes ici aussi dans une définition des caractéristiques de la féminité. Et vous voyez que d'emblée, quand on lit ce genre de phrase aujourd'hui, dans la nouvelle Sarrazine, vous vous posez des questions. Au moment où Roland Barthes lit cet énoncé, il se dit « Ouh, est-ce que Balzac serait pas un peu sexiste ici? Est-ce qu'il croit vraiment que la femme se définit, la féminité se définit par des troubles instinctifs ?» Je ne sais pas s'il y a quelques femmes dans l'auditoire qui trouvent que vous avez une tendance à être un petit peu... Voilà, vous savez aussi d'où l'étymologie du mot hystérie, qui est un terme sexiste qu'on ne doit plus utiliser aujourd'hui, se pose quelque chose ici de problématique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait que si, par exemple, vous faites partie des gens qui disent « Oui, là, il s'agit d'une expression de la sagesse universelle », là, c'est vous qui êtes sexiste, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous croyez encore aux archétypes, l'archétype féminin, l'archétype masculin, il y a une guerre de civilisation actuellement qui est en train de se mener autour de ces questions-là. Et donc, là, il y a des questions, vous voyez, politiques, voire enfin, en tout cas éthiques, qui sont extrêmement importantes. Alors si tout à coup, il dit non, c'est Balzac qui est sexiste, c'est pas... Alors là, vous parlez de l'individu Balzac. Il a une certaine philosophie de la femme, et vous pouvez très bien dire qu'à la même époque, par exemple, un autre écrivain va tenir peut-être des propos moins problématiques, ou alors, au contraire, vous allez dire, comme le soutient d'ailleurs un de mes chercheurs, amis, qu'au contraire, Balzac a peut-être fait partie des premiers féministes aussi dans cette façon sa façon de représenter les femmes. En tout cas, il est certainement un peu moins sexiste que Maupassant. Donc, vous voyez qu'ici, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment très, très importantes, en fait. Si vous dites, non, c'est pas l'individu Balzac, c'est l'auteur Balzac, ah, vous voyez, une belle stratégie pour, en gros, dire que ce que pense l'auteur, hein, sa conception de la femme, ne rentre pas en ligne de compte. Et donc là, on peut protéger la figure de l'auteur. C'est ce qui se passe souvent dans les classes de littérature, quand on a des élèves qui réagissent un peu face à certains textes, un peu datés peut-être, et qui se disent « Non, mais là, quand même !» Et là, on dit « Non, mais ne confondez pas, ce que pense l'écrivain n'a aucune importance, l'individu Balzac, vous savez, il faut voir ça comme une idée littéraire. » Et quand on fait ça, ce n'est pas un geste neutre, ça veut dire qu'il y a un lieu de débat au sein de la classe où il y a des conflits d'interprétation sur qui est responsable de cet énoncé, et dans lequel, en fait, quelqu'un peut imposer une lecture à quelqu'un d'autre en reposant sur l'idée « Oui, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, la littérature est destruction de toute voix. Hein. Ne confondez pas l'auteur et le narrateur, ou le narrateur ou l'auteur et le personnage. Là, c'est le personnage qui dit ça, parce que c'est ci, cela. » Et vous voyez qu'ici, il y a une guerre qui est en train de se jouer. C'est pour ça qu'un des chapitres, un des articles sur lesquels est construit ce livre s'appelle « La guerre des voix ». Il y a en fait une lutte dans laquelle en fait, se jouent des questions fondamentales qui sont celles de la valeur d'un énoncé littéraire, sa valeur politique, éthique et éventuellement esthétique, puisque quand on va, par exemple, défendre l'œuvre en disant « elle n'est pas sexiste, c'est une œuvre, c'est destruction de toute voix », on protège l'œuvre, on protège la lecture esthétique en disant « non, attendez, parce qu'évidemment, la lecture éthique peut poser problème ». Donc voyez sur quel terrain pourrait faire toute la conférence juste sur cette base-là, mais il y a là, il me semble, un constat de base qui est extrêmement intéressant, qui est posé par Roland Barthes, parce que c'était quelqu'un de très intelligent, il comprend bien qu'il y a là une ambiguïté, on a un énoncé qui, pas comme tous les autres énoncés, parce qu'il y a des énoncés du genre « elle entra dans la pièce et se mit à crier », bon, on ne peut pas faire grand-chose, mais il y a certains énoncés dans la fiction qui attirent l'attention et qui engendrent une pluralité possible de voix, et qu'en réalité, à chaque fois qu'on fait une attribution, s'ensuit en jugement de valeur, je vais vous le montrer de manière très concrète, d'ailleurs on pourra même arrêter là, je vois que le temps file. Cette idée-là, évidemment, Barthes n'est pas le seul à en avoir parlé. Il y a un auteur américain qui parfois fait figure un peu d'épouvantail de ce qu'on appelle le post-structuralisme, enfin un moment où on a l'impression que le sens se dissout et que donc, voilà. Mais Stan Defish, dans cet ouvrage qui a été traduit, donc il y a un montage de plusieurs articles de lui, écrit une chose que je trouve absolument passionnante. Il dit, énoncé qui lui-même pourrait peut-être être jugé sexiste, quand un homme dit à sa femme « ce n'est pas toi, c'est ta mère qui parle », j'avais jamais entendu ça, il témoigne premièrement du fait que les significations que l'on attribue aux mots varient suivant le locuteur auquel ils sont assignés, et deuxièmement, du fait que les mots ne vous disent pas qui est ce locuteur. D'accord ? Donc, souvent, on réduit Stanley Fish à cette déconstruction en disant, bon, il met ici en évidence l'indétermination de la source, comme vient de le faire Roland Barthes. On ne sait pas qui parle vraiment ici. Les mots ne vous le disent pas. Il ne suffit pas de s'en tenir à la lettre. Mais d'un autre côté, il ajoute une chose qui est très, très importante. Le fait d'attribuer ce discours à la femme ou à sa mère va complètement modifier la valeur. Et donc c'est une stratégie de défense de la part du mari, on peut imaginer, que de dire, ou de l'épouse, qui parle à sa... Bon, bref, vous comprenez. Là aussi, pour bien comprendre de quoi il s'agit, et je vais vraiment insister là-dessus, c'est pour ça aussi que je suis narratologue et pas linguiste, parce que le linguiste aurait envie de s'en tenir à ce que les mots disent, d'accord ? Donc ici, il serait intéressé par la structure du langage. Il y a deux notions, et c'est là où le terme polyphonie est lui-même polysémique, si vous voulez, mais il y a une notion qu'on retient de Michael Bakhtin, on parle souvent de la polyphonie de Bakhtin quand il parle des romans de Dostoïevski, mais là, on est vraiment très proche de la question quand même, de la capacité, il voit chez Dostoïevski, un inventeur extraordinaire, dans la mesure où pour lui, et faites bien attention, la création de Dostoïevski dans le roman, c'est que les personnages peuvent tenir des propos cohérents et convaincants qui ne reflètent pas ce que pensait Dostoïevski. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des perroquets, des porte-paroles, des pantins que manipule un écrivain qui aurait un discours à tenir sur le monde et qui ferait parler comme des marionnettes ces personnages, il dit, ben non, la force de Dostoïevski, la force du roman, tient justement au fait que chez Dostoïevski, mais je trouve ça étrange de dire que ça commence chez Dostoïevski, je pense qu'il y a des grands écrivains, enfin il y a des œuvres de fiction qui font ça depuis toujours, mais il y a une possibilité que le personnage parle en lui-même, qu'il ait une voix différente. Ça, c'est la polyphonie. C'est ça qu'il appelle le roman polyphonique. Ce qui est assez étrange, c'est juste pour bien comprendre à quel point ça va à l'encontre de la doxa, qui est celle qu'on enseigne dans les lycées aujourd'hui, après ce fameux article « La mort de l'auteur », c'est qu'en fait, le présupposé de départ, c'est que c'est l'auteur qui parle tout le temps. Et on n'entend que l'auteur à travers ce que disent les personnages. Et pas, on n'entend pas l'auteur, ce sont que des personnages qui parlent. D'accord ? Ici, il y a vraiment cette idée-là, ne confondez pas le narrateur. La lecture, disons, traditionnelle, vous lisez un truc, vous dites, là, Homère nous dit, là, Diderot nous dit, et on interprète tout ce que Diderot fait dire à ses personnages, par exemple, ou ce que Diderot dit en son nom propre, toutes les digressions de l'auteur qu'on trouve chez Diderot, on les attribue à la base à Diderot, et que c'est l'évolution du roman qui aurait complexifié les choses à partir de Dostoïevski, de nouveau, ce n'est pas ma thèse, mais c'est la thèse que défend Michael Bakhtin, par la capacité d'avoir tout à coup plus de polyphonie, des gens qui peuvent vraiment avoir des paroles différentes dans un même univers. Pour moi, le sommet de ça, c'est La montagne magique de Thomas Mann, où on a vraiment une représentation de tout ce que les gens pouvaient penser au XXe siècle et qui dialogue entre eux, genre une petite citation de Thomas Mann, et qui aboutissent au sommet de la polyphonie, d'une sorte de discordance complète, hein, cette fois-ci, de quel est le projet de Thomas Mann, faire une encyclopédie, en fait. Mais là, ce n'est pas de ça dont il est question. Bakhtin, il a aussi une autre notion qui s'appelle le dialogisme. Et le dialogisme de Bakhtin, c'est une idée encore plus basique, si vous voulez, qui est celle qui est évoquée par Stanley Fish un peu avant. C'est qu'en fait, quand vous parlez, vous utilisez des mots, mais ce n'est pas vous qui avez inventé ces mots. Il dit, seul Adam, s'il était vraiment le créateur du langage, hein, pourrait vraiment utiliser des mots qui lui appartiennent entièrement à lui-même, et pas seulement parce qu'il aurait inventé le langage, mais parce qu'il est tout seul. D'accord ? Mais dès le moment où vous apprenez à parler en écoutant des gens parler, toutes les paroles que vous utilisez, vous les empruntez à quelqu'un. Donc il y a toujours de toute façon quelqu'un qui parle à travers vous. Le dialogisme, c'est l'idée que je parle avec les mots des autres. On apprend à parler en imitant la parole des gens qui nous entourent. Comme par exemple, cette épouse a peut-être appris à parler en écoutant sa maman, et que c'est comme ça que tout à coup, ces discours de sa maman peuvent se retrouver dans ses propres discours. D'accord ? Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus, disons, pas terrifiant, mais en tout cas plus étonnant. Hein, et c'est vraiment en ce moment aussi, au milieu du XXe siècle, on prend conscience profondément de ça. On n'est jamais complètement maître de son discours, de ses actions. Hein, on est le produit de courants multiples qui passent à travers nous, l'inconscient, la lutte des classes, pour reprendre les grands trucs, Freud, Marx, et aussi, du côté du langage, hein, le langage, cette espèce intertextualité, interdiscours généralisé qui fait qu'on prend conscience qu'en fait nous ne sommes que, en quelque sorte, des perroquets, que très, on peut construire sa propre image, son propre pouvoir, mais c'est assez difficile. Donc de nouveau, là je mettais aussi une référence à Outils Revues. En linguistique, c'est pas donc en linguiste que je vais parler, il y a deux approches de la polyphonie. Une qui est celle de l'hétérogénéité montrée par le discours, c'est-à-dire toutes les techniques dans le langage pour montrer que ici, c'est moi qui parle, mais ce n'est pas moi qui parle, comme quand je fais parler, quand je parle de Barthes et que je reprends ses paroles, par exemple. Et puis l'hétérogénéité constitutive du discours qui fait qu'en réalité, tout discours est déjà miné de l'intérieur par une interdiscursivité qui complexifie les choses. Et du coup, vous voyez que, excusez-moi, pour du coup, c'est très oral pour le lieu, et de ce fait, vous voyez qu'il y a ici un problème qui en réalité n'est pas simplement celui du récit de fiction, du roman, hein, mais en fait celui du langage en général. Ça concerne toutes vos interactions langagières, tout ce que vous entendez. Voilà. Pour illustrer cela, du coup, c'est le moment un peu pop culture de la soirée, hein, un petit épisode de Friends. Alors moi, c'est comme ça, des fois, j'ai l'oreille qui traîne, puis tout à coup, il y a quelque chose qui résonne en moi. Je regardais un épisode de Friends, parce que voilà, je suis comme ça, j'aime bien les séries télévisées, dans lesquelles il y a un passage extrêmement intéressant, vraiment pour illustrer concrètement le phénomène dont il est ici question, et vous allez voir comment ça fonctionne. Je précise, pas simplement par souci de référençage, de référenciation, qu'il s'agit du numéro, enfin, de l'épisode 226 de la saison 10, épisode 8, etc., mais parce que saison 10, c'est la dernière saison de Friends, et donc ça va avoir une énorme importance. Épisode 8, c'est extrêmement important aussi, parce que même si aujourd'hui les jeunes regardent ça dans une télévision en streaming, et que donc la contextualisation du message disparaît, la première diffusion de cet épisode s'est faite sur la télévision linéaire à une date bien précise qui rythme en quelque sorte les divertissements télévisuels américains, à savoir qu'au moment de la fête de Thanksgiving, il y a traditionnellement des épisodes de Thanksgiving, de la même manière que quand on arrive vers Noël, il y a des épisodes de Noël qui sont en quelque sorte synchronisés, qui synchronisent la temporalité du public avec celle de ce que vivent les personnages. Et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant pour comprendre ce qui va se passer ici. Regardez, c'est pas du poussin, mais c'est quand même pas mal. Et comment je fais pour faire démarrer la séquence comme ça?
Hey, we need to talk to you about something.
Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year.
What?
What? Are you kidding?
Well, just with work and the stress of adoption, we just don't feel like we have the energy. Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us.
That doesn't sound like you. That's Monica talking.
No, no. We made this decision together.
Since putting words in your mouth.
Don't you put words in people's mouths. You put turkey in people's mouths.
Désolé pour la qualité de l'image. J'ai filmé l'écran de ma télévision. Mais voyez ici ce qui va se passer. Alors, en soi, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. D'accord. En soi, c'est assez simple. On a... donc Chandler et Monica qui sont en couple, qui vivent ensemble, qui sont sur le point d'adopter un enfant, qui viennent de se marier, et en réalité ça marque la vraie fin de la série, parce que Friends, ça repose sur le fait que c'est une série de jeunes adultes mais encore en situation de, disons, de construction vraiment le passage de l'adolescence à la vie adulte, disons. On est ici vraiment vers la fin des arcs narratifs de la série. Ce qui se passe ici, c'est que si vous connaissez les personnages, qui connaît bien Friends face au public qui connaît le moins la série? Ouais, quand même, quelques-uns. J'ai jamais eu un aussi faible taux de réponse. Vous avez, Monica est une personne qui est chef dans un restaurant, c'est une cuisinière, elle souffre d'un trouble de compulsif, hein, en anglais les gens disent anal, comme on dit. Elle aime contrôler tout, donc on sait que Chandler, son mari, est un type extraordinairement paresseux et maladroit, donc il est évident que s'ils organisent Thanksgiving, il est absolument impossible que Chandler fasse quoi que ce soit, c'est Monica qui fait tout. Donc, on est face ici à une interprétation extrêmement basique. Le frère de Monica, Ross, dit « Attends, ça, it doesn't sound like you, ça sonne pas comme toi. Hein. » Et en fait, il dit « C'est Monica qui parle. » Donc, vous voyez qu'ici, il se passe la chose suivante, je vais vous prendre. Hein. Il y a un « nous », et donc le système de l'énonciation du discours, en fait, est une prise en charge qui prend en charge la responsabilité de l'énoncé par un « nous ». Mais en même temps, on voit que ce « nous » ne reflète pas qui parle. En l'occurrence, c'est Chandler qui parle, mais il est porte-parole dans « nous ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a des accords. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté quelqu'un qui dit « non, c'est notre décision à nous » et quelqu'un dans le public qui n'est pas d'accord avec ce qui est dit dans le discours et qui dit « la personne qui parle ici, ce n'est pas la personne qui prétend parler et ce n'est pas non plus la personne qui parle. Bon, » Et le petit gag à la fin est très important, parce que quand Joey, qui lui est morphale et donc ne pense qu'à manger, dit qu'il ne faut pas mettre des mots dans la bouche des gens, mais de la dinde dans la bouche des gens, il est en train de faire quelque chose qui est assez intéressant. Vous entendez, il y a un rire enregistré qui fait entendre un public, puisque ces épisodes sont joués devant un public avec des rires enregistrés qui font partie de la représentation. Ça veut dire que dans la représentation, on a en fait un public qui est censé être là pour rire. Tous ces mots, en fait, ont été prononcés non pas pour dire, donner une information, c'est pas Chandler qui parle à Ross et Joey pour leur dire qu'ils ne vont pas faire Thanksgiving, ce sont des acteurs qui sont là pour faire rire en public. Donc ici, on a une complexité, si vous voulez, qui s'ajoute, qui fait qu'on peut arriver à peu près à ça. La polyphonie, c'est quoi? Il y a une personne qui parle, c'est Chandler. Il y a une énonciation qui dit « c'est pas Chandler qui parle, c'est Chandler et Monica qui assument ce qui a été dit ». Il y a un troisième locuteur qui n'est pas d'accord avec cette assignation et qui dit « je ne suis pas d'accord, le sens des mots est différent ». En réalité, c'est Monica qui parle. Et en réalité, tous les publics sont là en se disant « en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que c'est le dernier épisode de Thanksgiving de la série Friends, puisque l'année prochaine, tout le monde sait qu'il n'y aura pas de saison 11, c'est la dernière saison de Friends, et que là, les producteurs de la série sont en train de communiquer au public, hein, une nouvelle qui peut-être les fait rire s'ils ne font pas très attention, mais de nouveau, ici, il y a différents niveaux de lecture qui sont autorisés, compossibles. En fait, ici, il y a quelqu'un d'autre qui parle et qui est en train de dire « c'est la dernière fois que vous aurez, qu'on va vous mettre de la dinde dans la bouche, c'est-à-dire qu'on va vous donner votre divertissement ». Donc ici, vous voyez qu'il y a une polyphonie, et face à cette multiplicité des voix, plutôt que de dire non, 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 tout ça, la littérature ou la série télé, c'est la destruction de toute voix, non, en réalité, on voit qu'entendre des voix permet de comprendre le sens des énoncés, et qu'entendre des voix qui ne sont pas forcément celles qui sont présentes dans la représentation, c'est donner plus de valeur à l'énoncé. Plus vous entendez de voix, hein, plus vous êtes capable, par exemple, d'entendre les producteurs de la série, les scénaristes, parler à travers leurs personnages, et plus l'interprétation est intéressante. Et c'est pas si on ne tient pas compte de ça. Donc on est là face à une polyphonie dont j'aurai juste le temps finalement de vous montrer les effets, en se disant, bon, alors si la question c'est qui parle ici, au lieu de se dire personne, parce que la littérature est la destruction de toute voix, il faut dire plutôt c'est un whodunit. Donc vous savez, c'est un genre de récit roman policier, whodunit, qui l'a fait ? Parce qu'il y a là, et c'est, vous voyez, aussi un changement de la textualité vers les actes de langage. Si on prend la littérature comme un acte de langage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui doit être responsable de cette chose qui a été faite. Et que quand on est face à ce genre d'objet, en fait, il faut rechercher cette responsabilité, et ça fait partie du travail d'interprétation, selon ce que disait Mickey Ball. Donc comment commencer cette enquête? Je vais terminer sur cet élément, et du coup on ne parlera pas du tout de Houellebecq, mais vous comprenez pourquoi Houellebecq a été intéressant pour moi. C'est que Houellebecq engendre des cadrages interprétatifs tellement différents que, avec lui, et dans les gens qui détestent les romans de Houellebecq, la plupart des gens disent « ce type est en porc misogyne, j'ai jeté son livre au bout de la page 15, c'est pas moi qui invente, hein, je cite en lecteur de Houellebecq qui a mis son commentaire en ligne sur un site de vente en ligne dont je ne donnerai pas le nom ». Quand on fait ça, et puis quelqu'un d'autre dit « oui, mais cette façon de représenter le monde est tellement, bien sûr, c'est choquant, mais c'est comme ça que le monde est vraiment, etc. » Et puis, il y en a ici des cadrages interprétatifs très différents, et qu'en fait, le fait de dire « oui, mais là, la question de l'auteur n'a aucune importance », aucun des critiques qui, dévalue cette littérature ne prétend tout à coup « ah non, non, mais ne confondez pas l'auteur-écrivain et l'auteur-personne civile avec cette œuvre-là ». C'est vraiment une sorte de révélateur, ce genre de choses. Je vais vous montrer maintenant, en partant d'une œuvre beaucoup plus canonique, le Don Juan de Molière. Okay. Vous allez voir que ça fonctionne aussi à plein là-dedans, et vous allez voir ce qui se passe quand on a un désaccord interprétatif. Ça, j'écoutais la radio le matin, j'ai retrouvé le podcast, j'ai compilé ça, et ici on a Jean-Pierre Vincent, qui est donc le metteur en scène du Don Juan de Molière à la Comédie Française, qui défend son Don Juan avec une interprétation très particulière. Je ne sais pas si vous êtes allé voir cette pièce de Jean-Pierre Vincent, mais elle a la particularité que dans la mise en scène, dans la dernière scène, Don Juan se relève et s'enfuit. Comme si toute cette histoire du commandeur, etc., n'avait été qu'un subterfuge pour qu'il puisse s'enfuir. Et ça, c'est un effet de mise en scène. Il interprète le texte de Molière, qui, d'ailleurs, dans toutes les versions de Don Juan, vous savez que le Don Juan français le plus moraliste de tous les Don Juan, il y a des Don Juan beaucoup plus libertins, il le réinterprète pour l'actualiser. Alors voilà ce que dit Kathleen Evin lorsqu'elle l'interroge à la radio, Mais comment je fais pour faire démarrer la...
En même temps, il faut dire quand même que cette pièce, de temps en temps, elle nous agace un peu parce que Molière a tellement voulu donner des leçons de morale à tous ses ennemis que, par exemple, lorsque le père de Don Juan fait irruption au moment de vers la fin de la pièce, pour, et il vient faire des remontrances à son fils en lui disant « Qu'est-ce que tu crois être noble ? C'est pas comme tu vis, c'est pas croire que tout est permis. » Là, c'est, on se dit... Il est un peu lourdingue quand même, Molière. On se le dit aujourd'hui. Parce
non, c'est le père qui est lourdingue. Oui. C'est pas Molière.
Bah, c'est une tirade qu'il reprend vraiment à son compte.
Mais pas du tout. Mais pas du tout.
Ah, j'ai pas compris alors.
Mais non, enfin, disons que c'est pas le problème de Molière de reprendre à son compte des tirades. C'est sûr qu'au moment de l'hypocrisie, la structure de langage, la structure de, comment dire, physique du discours ressemble beaucoup à un discours, par exemple, que Molière se fait tenir à lui-même dans l'Impromptu de Versailles pour défendre son théâtre contre les autres théâtres. C'est la même faconde, c'est la même rhétorique, c'est la même puissance oratoire. Mais sur les autres personnages, que ce soit sur Elvire, sur etc., non, c'est pas le problème, c'est jamais le problème de Molière de s'identifier. Pas le problème de Shakespeare non plus. Les grands auteurs ne s'identifient pas. Ils inventent des personnages de fiction. Et ce père qui représente des valeurs, hein, des valeurs de l'ex-chevalerie, d'avant les guerres de religion, de tout ça. Je voyais hier, je suis allé à Nanterre voir Britannicus, la mise en scène de Jean-Louis Martinelli, qui est formidable. Et on voit aussi une Agrippine, là, qui fait partie de la famille royale depuis plusieurs générations et qui ne veut pas lâcher, quoi. Elle ne veut pas, elle ne peut pas lâcher. Et le père ne peut pas lâcher cette tradition chevaleresque. Il y a un personnage très intéressant.
Et vous ne saurez jamais qui, parce que j'ai coupé là. Mais ce n'est pas la question. Et si vous voyez, il y a quand même, si on revient sur ce discours, il y a des tas de choses extrêmement intéressantes qui se déroulent, hein, et vous voyez, qui sont vraiment liées à des questions d'attribution et des questions de valeur. Alors, on va regarder un petit peu, on va décomposer ça, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici Kathleen Evin qui dit « Il est lourdingue quand même, Molière. Hein ?» Lecture morale, éthique, si vous voulez, pas très actuelle, un peu moraliste. Vous voyez, ici, elle met en cause en disant qu'elle entend dans le discours du père de Don Juan, des discours moralistes, hein, la voix de Don Juan, la voix de Molière. Alors là, vous voyez, refus absolu. Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est le père qui est lourdingue, c'est pas Molière. Hein. Et avec ça, quelque chose d'autre, de très frappant et très, disons, propre à une certaine doxa que vous retrouvez vraiment dans les milieux intellectuels et dans l'enseignement de la littérature au lycée, les grands auteurs ne s'identifient pas aux personnages. D'accord ? Que ce soit Shakespeare, etc. Donc, fin de non-recevoir. Vous entendez la voix de l'auteur, c'est impossible. Et d'ailleurs, vous voyez bien que ce serait très embêtant parce que si on les entendait, on risquerait dévaluer la valeur de l'œuvre parce qu'on dirait qu'il y a là un décalage quand même en termes de cadre moral par rapport au monde dans lequel on vit. Et vous remarquez aussi qu'il y a dans ces conflits interprétatifs des questions de statut. C'est-à-dire que quand on est metteur en scène de Don Juan à la Comédie française, on peut décider qui parle ici et que les gens qui sont seulement journalistes sur France Inter doivent dire « Ah, j'ai pas compris alors ». D'accord ? Imaginez tous les jeunes lycéens qui disent « Ah, j'ai pas compris alors ». D'accord ? Surtout préoccupés de savoir quelles notes ils auront à leur prochaine explication de texte. Et puis, il se passe quelque chose de bizarre. Parce que, là quand même, Jean-Pierre Vincent continue « Enfin, disons que… Hein, » tiens. Ça, c'est un marque de concession. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est sûr que la structure du langage, la structure physique du discours, donc dans les discours, comprenez, du père de Don Juan, hein, dans cette pièce, les discours du père de Don Juan ressemblent beaucoup, it sounds like, hein, comme tout à l'heure, it doesn't sound like, it sounds like someone else. Ça sonne comme un discours que Molière se fait tenir à lui-même dans l'Impromptu de Versailles. Donc imaginez Molière jouant le personnage Molière écrit dans une pièce écrite par Molière. Hein, on est vraiment dans l'autofiction XXL. Se fait tenir à lui-même dans l'Impromptu de Versailles pour défendre son théâtre contre les autres théâtres. C'est la même faconde, c'est la même rhétorique, c'est la même puissance oratoire. Je l'ai tellement entendu que je la connais même, sur là, je peux vous la rejouer. Mais sur les autres personnages, je ne comprends plus. Et vient de dire que non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais sur les autres personnages, ok, mais là, il y a quand même un truc. Visiblement, le père de Don Juan parle de manière, même pour un grand spécialiste comme lui, qui connaît quand même très bien cet art, ouais, en fait, c'est vrai quand même que le père de Don Juan ressemble terriblement Don Juan, enfin à Molière lui-même. Mais que ce soit sur les autres personnages. Ah bon ? Donc en fait, il vient de donner raison à Kathleen Eva. Désolé, ici c'est quand même assez clair. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça continue. Donc sur les autres personnages, que ça serait Elvire, etc., non, ce n'est pas le problème. Ah, bon. Donc il y a peut-être quand même des fois où les gens admettent que... Les grands auteurs. Alors là, Doxa. Donc on oublie ce qu'on vient de dire, il vient de reconnaître que Molière parle comme le père de Don Juan, mais en fait ce n'est pas vrai parce que c'est un grand auteur, et les grands auteurs ne s'identifient jamais à leur personnage. Vous voyez aussi la Doxa post-Bakhtine, hein, le grand écrivain Dostoïevski a été capable de libérer les personnages de la tutelle des grands écrivains, de ce que les grands écrivains avaient à dire. C'est vrai quand même pour une toute petite partie de la littérature et pour une partie seulement des personnages dans cette littérature. Et c'est pour ça, de nouveau, vous repensez à l'œuvre de Houellebecq. Le truc, c'est qu'on a tout le temps l'impression que tous les personnages de Houellebecq parlent pour dire ce que Houellebecq a à nous dire, enfin, pour partager sa vision de la société. Ce qui fait qu'on ne peut pas échapper à cette lecture-là. D'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, il dit autre chose. Donc, les grands auteurs, blablabla, et il parle... Alors, on pense qu'il est un peu diffluent, peut-être, il est fatigué, mais en fait, il commence à parler d'une autre pièce de théâtre, hein, écrite par un autre auteur qu'il est allé voir. Donc, il est allé voir, Britannicus, magnifique mise en scène de Jean-Louis Martinelli, il est formidable, super. Et là, il y a un autre personnage, Agrippine, qui, là, fait partie de la famille royale depuis plusieurs générations, qui ne veut pas lâcher, elle ne peut pas lâcher, etc. Et le père, donc on revient au père de Don Juan maintenant, ne peut pas lâcher. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que tout à coup on nous dit « Ah non, 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 c'était pas vraiment Molière, en fait si quand même, hein, ça ressemble à Molière, mais c'est pas vraiment Molière. » Parce qu'en fait il y a un autre personnage, une autre pièce écrite par un autre auteur qui parle comme le père de Don Juan et qui en réalité, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle de la tradition chevaleresque. Et ce n'est pas du tout une mauvaise interprétation, c'est celle d'un homme très lettré, hein, qui multiplie, si vous voulez, les couches de langage et qui donne de la valeur aussi à ses interprétations. Mais là, au minimum, on est quand même d'accord qu'il y a le père de Don Juan qui n'est pas tout à fait, le père de Don Juan qui n'est pas tout à fait Molière, mais qui ressemble quand même à Molière et qui maintenant ressemble à Agrippine. D'accord ? Et donc, en fait, il y a quelque chose qu'on va appeler, j'ai appelé ça doxa, faute de mieux. Après, voilà, j'avais présenté un truc comme ça dans une leçon probatoire pour un poste, et puis après, on m'a dit, c'est quoi la doxa ? Puis je me suis dit que j'aurais mieux fait de choisir un autre mot, mais ici, je pense que vous n'allez pas m'interroger, il paraît que vous n'avez pas le droit à la parole. Donc, qui parle ici ? Vous voyez que dans ce petit extrait, hein, on voit quand même que la valeur de la pièce, hein, entièrement repose sur des questions d'attribution de voix, et qu'on entend au minimum soit le personnage, lecture sémiotique ou structurale, c'est le père de Don Juan, c'est pas Molière, l'auteur, parce qu'on peut quand même l'entendre, on pourrait même, donc l'auteur moralisateur, il est lourdin quand même Molière, puisque vous voyez qu'ici, c'est le père de Don Juan qui parle, pour Kathleen Eva, c'est Molière qui est quand même lourdingue, c'est pas le père de Don Juan. Mais on pourrait aussi, lecture herméneutique, hein, l'auteur-écrivain, pour reprendre cette distinction qu'on trouve dans le texte de Barthes, hein, non, non, ce sont des idées littéraires sur la morale. Bon, là, il y a tout ce débat autour, hein, du second moi dont parle Proust, notamment dans son Contre Sainte-Beuve, etc. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain, je ne suis pas du tout assez cultivé. Mais par contre, ayant un père psychanalyste, je peux dire qu'on peut au minimum se dire que le père de Don Juan pourrait incarner le surmoi de l'écrivain, donc une partie, un fragment de sa personnalité qui permet, en fragmentant sa personnalité, de faire parler différents aspects de sa psyché dans une pièce et de résoudre, si vous voulez, les tensions de notre psyché dans une pièce comme ça. Bon, maintenant, on n'est plus tellement à l'époque de la psychanalyse, donc ce n'est pas l'interprétation qui est la plus dominante, mais il y a une soixantaine d'années, probablement, qu'on aurait eu une lecture de ce type-là. Et puis, on voit d'autres lectures qui parlent de la doxa chevaleresque et qui donnent une valeur historique, cette fois-ci, hein, qui permet de lire dans cette pièce de théâtre, hein, quelque chose comme le choc entre deux civilisations, entre deux états de la société, qui est une lecture aussi passionnante, une lecture plutôt historienne, qui relève de l'histoire de la culture. Et puis il y a toujours la possibilité, c'est quand même possible, et c'est ce que je voyais aussi dans cette réflexion autour du tableau de Poussin, hein, de dire, oui, mais il y a quelque chose dans ce Don Juan qui passionne les foules depuis si longtemps, c'est un peu la doxa derrière la conception de ce que c'est qu'un classique, qui passionne les gens depuis si longtemps, il doit bien avoir quelque chose dans cette pièce, ou dans ce récit, ou dans cette histoire, qui touche à quelque chose d'universel, ou si ce n'est pas universel, au moins occidental, mais quelque chose qui traverse les époques et qui intéresse les gens. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui peut dire, oui, mais vous voyez, là, dans ce conflit moral, etc., il y a quelque chose qui est comme quelque chose qui parle de l'existence humaine, des conflits dans lesquels tout être humain doit traverser, à travers lesquels tout être humain doit traverser l'existence. Donc il est 18h51, je peux m'arrêter là, c'est une forme de conclusion intermédiaire. Si vous voulez en savoir plus, il faut acheter le livre, il est encore en vente. Ça reprend un peu sous différents angles ces questions-là. Vous retrouvez en tout cas, pas Friends, mais la partie la discussion ici sur ces interprétations conflictuelles. Mais vous voyez qu'ici, enfin, juste pour terminer quand même là-dessus, c'est que la question n'est pas pour moi de trancher ce débat, de trancher le nœud gordien, comme le fait Roland Barthes, en disant « Tout ça, c'est compliqué, on ne sait pas qui parle ici, et donc, en fait, personne ne parle. La littérature est destruction de toute voix. » Non, la littérature est polyphonique, fait entendre différentes voix, et que dans la manière dont chacun d'entre nous, de manière... On ne peut pas interpréter une œuvre sans attribuer des responsabilités, des intentions, sans faire cela, sans que le texte ou l'œuvre nous donne des indices absolument sans ambiguïté. Hein, on est face ici à une multiplicité, disons, d'attributions qui transforment la valeur, radicalement la valeur d'une œuvre, que ce soit sur le plan de sa valeur de vérité, de sa valeur éthique, morale, ou de sa valeur esthétique, le plaisir qu'on peut en tirer. Hein, le fait, vous voyez, Jean-Pierre Vincent, quand même, pour terminer là-dessus, quand même, en ressuscitant Don Juan, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est que lui aussi, ça a dû le déranger que ce texte soit un peu moralisateur. Il s'est dit, ouais, oui, à la fin, le méchant est puni, mais moi, j'ai envie de lui redonner quand même en second souffle. Et donc, il en a bien conscience. Donc, qu'est-ce qu'il fait en tant que metteur en scène? Il le fait se relever à la fin. Et c'est certainement pas la lecture qu'on aurait faite Molière, soyons honnêtes. C'est une façon quand même de sauver la valeur de l'œuvre en la réactualisant. Et donc, on voit bien que Catherine Evin, ici, elle touche sur cette corde sensible. Donc, moi aussi, ma préoccupation éthique, morale, ici, c'est de dire la question, c'est pas de savoir qui parle ici, mais c'est d'admettre dans le débat interprétatif qu'on entend des voix différentes et de respecter ces voix. De pas dire non, 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 pas du tout. Les grands auteurs ne s'identifient jamais à leur personnage. Enfin, vous savez, vous manquez d'éducation si vous pensez une chose comme ça. Non, c'est pas vrai. Chacune de ces interprétations est possible, et derrière ça, le respect démocratique, disons, qui doit, c'est de multiplier plutôt les espaces pour entendre des voix différentes qui enrichissent l'interprétation, ce qu'on a vu aujourd'hui avec le tableau de Poussin, pour ça, magnifique, mais respecter cette possibilité, ce droit, par exemple, des publics, des lecteurs, d'entendre l'auteur, parfois, et parfois pas, d'avoir quelqu'un qui ne l'entend pas. Voilà. Juste pour rendre hommage à une chercheuse que j'aime vraiment beaucoup, Lisbeth Cortal-Altès a écrit un livre magnifique aussi, probablement plus sérieux, et le mien est peut-être plus facile à lire, mais plus sérieux sur une idée très semblable qui s'appelle Ethos and Narrative Interpretation, The Negotiation of Values in Fiction. Vous voyez qu'elle est vraiment sur les questions des valeurs. Après, il faut lire l'anglais. Hein, mais et elle a aussi beaucoup parlé de Houellebecq parce que justement, c'est un cas vraiment, en quelque sorte, qui fait office de révélateur en fait de ces problèmes-là, parce que justement il y a tellement de conflits d'interprétation que quand on regarde un peu les raisons des gens, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui reposent là-dessus. Et donc c'est aussi une manière là, elle a plutôt utilisé la théorie du cadrage interprétatif, le cadrage qui vient de la sociologie de Goffman, pour expliquer ces choses-là. Donc si j'avais eu plus de temps, je vous aurais montré aussi quels sont les types de cadrage qui font que parfois on entend plutôt l'écrivain, parfois autre chose. Voilà, merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.